France Inter.
Je ne connaissais pas les mots, au fond, quand ma mère a été malade, par exemple. C'était des choses sur lesquelles il n'y avait pas de mots, en fait. Alors, il fallait le trouver, ce mot-là, s'il en existait un. Ou s'il n'en existait pas un, il fallait trouver des phrases pour le raconter. Une fois que les choses pouvaient porter un nom, et que ce nom permettait de les partager aussi avec d'autres, eh bien oui, j'étais du côté des vivants.
Et je trouvais que de fabriquer un monde, c'était terriblement exaltant. C'est un peu pareil avec les spectacles, hein. Je préfère vraiment fabriquer que mes acteurs jouent terriblement bien dedans. Moi, je tente de trouver une place dans ce monde-là une fois qu'il est créé. Et j'avais déjà ce sentiment dans ma chambre qu'on a une grande idée et on fait une petite cabane quand même.
Une inconnue confie son téléphone portable à un homme qui ne va pas résister. Il le consulte, il le fouille pour découvrir les traces de cette femme. Elle a enregistré par exemple ses séances d'analyse, ses dîners ou les questions qu'elle a posées à ses parents. À force de manipuler l'appareil, Thomas commence à connaître Romane Monnier. Se dessine le portrait d'une jeune femme d'aujourd'hui, mais aussi, en miroir, le portrait de Thomas, un homme fragile, un père qui a élevé seul sa fille. Je suis Romane Monnier, le nouveau roman de Delphine de Vigan chez Gallimard, le nouveau succès de la romancière qui se lit quasiment comme un thriller. Bonjour Madame Vigan.
Bonjour Vincent.
Ça fait plaisir, après des années de travail, de retrouver ses lecteurs.
Oui, ça fait très plaisir, surtout que là, ça faisait 5 ans, en effet, que je n'avais pas publié de roman, donc j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une attente et que voilà, les lectrices et les lecteurs étaient contents qu'on se retrouve.
Vous commencez par les lectrices, est-ce que vous êtes plus lue par des femmes, peut-être ?
Alors, ça, on dit que le lecteur est une lectrice et oui, que les romans sont quand même davantage lus par des femmes. Ceci étant, je fais le constat que Je suis Romane Monnier trouve un écho particulier auprès des hommes. Je me suis demandé d'ailleurs, est-ce que c'est parce que ce héros que vous avez évoqué à l'instant, Thomas, est un homme, ou est-ce pour d'autres raisons, je ne sais pas.
Intéressant. Vous aimez le cinéma, la musique, le théâtre, le texte, les acteurs, la mise en scène, et vous conviez dans votre atelier la metteuse en scène Julie Deliquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, vous avez fondé le collectif In Vitro, vous avez mis en scène par exemple La Noce de Brecht, Vania d'après Tchekhov, Un conte de Noël, Welfare, ou récemment La guerre n'a pas un visage de femme d'après Svetlana Alexievitch. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Joss.
Delphine de Vigan, est-ce que vous aimez l'époque dans laquelle on vit ?
Oui. Oui, je ne peux pas dire le contraire, je la trouve intéressante. Enfin, c'est surtout que je n'envisage pas de vivre dans une autre époque. A priori, je sais que ça n'est pas possible. Donc, je ne me suis jamais posé tout à fait la question, d'ailleurs, de cette manière. Je me sens assez en décalage par moment avec l'époque. Mais au fond, oui, je l'aime parce que j'y suis ancrée, parce que j'y ai les gens que j'aime, tout simplement.
Et puis aussi parce que vous puisez dans ce qui est bien ou pas bien. C'est vous qui jugez ça, d'ailleurs. Beaucoup d'inspiration, les romans viennent beaucoup de cette époque.
Oui, souvent, enfin en tout cas plusieurs de mes romans sont venus à un moment donné de quelque chose dans, probablement qui appartient à l'époque ou qui est spécifique à l'époque, on va dire, quelque chose qui me percute, qui me heurte. C'était le cas avec le précédent roman Les enfants sont rois, où je l'ai raconté, où la découverte de ce phénomène des enfants influenceurs dont je n'avais jamais entendu parler a tout de suite produit chez moi le geste de m'emparer d'un carnet et de me dire je vais écrire quelque chose là-dessus, parce que j'étais dans une forme vraiment d'étonnement sidéré. Et puis pour Je suis Romane Monnier, probablement une petite... quelque chose de l'époque qui régulièrement me rend un peu mélancolique ou qui m'atteint de manière assez insidieuse. C'est pas... Là, pour le coup, je n'emploierais pas le mot percute. Mmh. C'est plus, depuis quelques années, c'est un sentiment d'impuissance, d'assister de manière impuissante à des choses qui me font beaucoup de peine.
Vous pouvez être attiré et effrayé par vos sujets, alors ?
Oui. Oui, bien sûr. Y a probablement ça, d'ailleurs, oui, une forme d'attraction-répulsion. Ouais.
Quand on est metteuse en scène, Julie Delicky, est-ce que l'époque importe? Est-ce qu'il faut être en phase avec son époque? Est-ce qu'il faut montrer, rendre compte de son époque? Est-ce que c'est possible?
En tout cas, c'est une vraie question qui anime mon travail au quotidien. Mais je dirais que j'ai assez... En tout cas, je ne me confronte pas directement via l'art à représenter mon époque, mais je l'interroge souvent en parlant de l'époque d'avant et de l'héritage qui est la nôtre. Et du coup, quel est notre devoir de combat pour la génération d'après? Donc j'ai l'impression que c'est comme si mon présent et mon combat au jour le jour, je le mettais en lumière en parlant plus de ceux d'avant et de ceux d'après. C'est comme si c'était une grande pudeur, en tout cas chez moi, de parler directement de nous face à la sidération qui est parfois la nôtre au quotidien, ou aussi les victoires qui sont aussi les nôtres et que je n'aurais pas forcément envie de retourner en arrière.
L'histoire, le passé, sans la moindre nostalgie, éclaire le présent, dit-on souvent. C'est un petit peu ce qui vous anime aussi.
C'est exactement ça. Je ne parle pas du tout de nostalgie. Je parle vraiment d'interrogation et de travail actif, c'est-à-dire qu'on peut réinterroger les choses passées, le propre présent, malheureusement, déjà, là, ma phrase finissant, il est déjà dans le passé. Oui. Donc, en fait, et je me refuse à être dans une réaction dans mon travail, et je crois au temps long, donc je crois à l'analyse du temps.
L'époque, c'est intéressant de travailler sur l'époque d'Edwin de Vigan, c'est votre cas, souvent, dans de nombreux romans. Comment vous nous regardez? Comment vous nous observez? Moi, je vous ai déjà pas mal interviewé. J'ai l'impression que vous avez une très grande écoute, par exemple. Est-ce que vous vous nourrissez, pour les romans à venir, de comportements, d'attitudes, de déclarations?
Oui, probablement. D'ailleurs, pas forcément de manière consciente. Je me rends compte dans la vie de tous les jours que je suis souvent dans une position d'observation et que j'aime beaucoup écouter les gens, c'est vrai, globalement, les observer. Mais,
c'est pas un pur opportunisme d'écrivain, ça, c'est un état.
Non, je pense que c'était réel. Antérieur. Oui, ça a précédé sans doute l'écriture et peut-être que c'est une des raisons qui m'a amené à écrire. Mais quand j'empoigne l'époque, et j'ai le sentiment, pour le coup, parfois de le faire, c'est jamais tout à fait avec cette ambition-là. En tout cas, c'est avec plus à travers l'intime. Au fond, à chaque fois qu'il me semble avoir rendu compte de quelque chose de l'époque, j'espère le faire plus par le biais du ressenti, de la sensation, de l'individu, de l'humain, de comment ces choses-là s'inscrivent finalement dans nos corps, dans notre relation avec les autres, etc. Je n'ai pas d'ambition d'embrasser l'époque comme pourrait le faire un sociologue ou pourrait... Je ne saurais pas le faire, d'ailleurs.
En tout cas, vous savez traquer l'intime. Moi, à la fin de votre roman « Je suis Romane Monnier », je me suis ennuyé des personnages. J'avais envie de retrouver Thomas. J'avais envie de continuer à mieux connaître Romane. J'avais envie d'aller interroger moi aussi leurs parents, en tout cas ceux qui restent, puisque Thomas a perdu son père quand il était très jeune et c'est quelque chose de très marquant dans sa vie. Vous arrivez à les incarner. Vous arrivez justement à nous plonger dans leur intimité. C'est ça votre, d'une certaine manière, votre mission au départ d'un roman.
Oui, tout à fait. C'est toute mon ambition. C'est tout l'objet de mon travail. C'est ça qui va m'occuper, c'est de les incarner, de leur donner chair, de commencer par m'y attacher moi-même, et en l'occurrence c'est le cas. Thomas, c'est un personnage que j'ai eu du mal aussi à quitter. J'ai vécu assez longtemps avec lui d'ailleurs, puisque c'est un texte que j'avais interrompu, donc il est resté avec moi même pendant les temps d'interruption.
Il est charmant parce que c'est un mélancolique.
Oui, c'est un mélancolique, oui, et je rejoins d'ailleurs un peu ce que disait Julie à l'instant. J'ai pas de nostalgie. J'ai de la nostalgie à titre personnel pour certains moments, voilà, de mon histoire, de mon passé, la petite enfance de mes enfants, des choses comme ça. Mais j'ai pas de nostalgie d'époque. Oui, voilà, c'est un mélancolique en tout cas.
On va continuer de parler avec vous, Delphine de Vigan, de vos personnages, des personnages aussi que vous faites incarner par des acteurs, Gilles Deliquet, sur une scène. Et on va écouter d'abord Amnésie de PR2B, très belle chanson sur la mémoire.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur, comme tout appris par cœur. C'est fou, c'est... c'est beau et ça fait peur. Des gens qui savent comment oublier. Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort.
Le Grand Atelier sur France Inter.
L'immense tragédie qui va tomber sur nos enfants et sur nous-mêmes dans l'addiction à cette cochonnerie qui s'appelle le portable. Je ne te dis même pas les conversations dans les restaurants. Maintenant, ça y est, c'est assumé. Ils bouffent ensemble, ils regardent. Or, par moments, miraculeusement, ils communiquent. Ah tiens, regarde le chiot, hein. Oui, il est beau le chiot, tu vois, bon. Mais il y a aussi ceux qui appellent au portable avec la stéréo. Donc t'entends leur conversation de bureau. Oui, alors tu lui dis qu'on veut 28%. Oui, mais ça, on les aura pas, on les aura pas. Alors t'entends la réponse d'une voix immonde, bon.
On te dira que ça permet aussi d'être connecté au monde. C'est-à-dire que grâce à ton portable, tu sais ce qui se passe aux États-Unis à l'instant où ça se passe, quoi.
Oui, t'es connecté à tout sauf à celui qui est en face de toi dans le TGV. Il peut crever, personne te regarde, ils ont des trucs sur l'oreille. T'es connecté à tout sauf au prochain.
Voilà, parler de l'époque avec Fabrice Lucchini, c'est toujours un moment de radio, n'est-ce pas, Delphine de Vigor?
On le reconnaît bien, en tout cas.
La vision très négative du téléphone portable. Est-ce que vous regrettez, Delphine de Vigor, le temps du téléphone à fil et des cabines téléphoniques?
Bah non, mais parce que d'une manière générale, voilà, je j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de dire c'était mieux avant, ça n'a aucun sens.
Et puis c'est pas du tout le propos du livre.
Absolument
mais
pas.
Mais vous pourriez avoir une petite nostalgie des moments le soir où on faisait la queue pour pouvoir téléphoner, on finissait par taper sur le carreau, sur la vitre.
Non, j'ai pas de nostalgie de ça, mais j'aime bien parfois le raconter à mes enfants ou à des jeunes gens qui peinent à se représenter ce que ça voulait dire ne pas être joignable. En fait, raconter des anecdotes, oui, on pouvait rester une journée chez soi à attendre un appel. En effet, quand on voulait avoir un coup de fil un peu intime, on tirait le fil pour essayer de refermer la porte derrière soi. Et je me rends compte que oui, pour eux, il y a quand même un exercice un peu particulier d'essayer de se représenter.
C'est de l'ordre du cinéma pour eux.
Oui, c'est ça, un peu du folklore. Il y a quelque chose
Julie, vous êtes née en 1980, mm-hmm. Julie Deliquet. Le téléphone, les cabines, tout ça, ça vous avez un petit peu connu quand même.
Quand même beaucoup même. Ah oui, moi j'ai eu un
la pure enfant du portable.
Ah non, moi j'ai eu un téléphone qu'adulte. J'ai vraiment pas du tout connu de téléphone avant mes 20 ans. Et encore au début, c'était pour un appel d'urgence. On l'allumait pas. Enfin, il était là. Mais non, je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, c'est dans le rapport au travail, c'est vrai qu'il y a une connexion à l'information et au contenu qui me paraît très abstrait de me dire comment on faisait avant.
Si je vole votre portable, Julie Deliquet, qu'est-ce que je trouve dedans?
Bon, pas grand-chose, j'avoue. Hein, j'ai pas d'appli, j'ai aucun réseau social. Je n'en ai jamais eu et je n'en ai jamais voulu. Donc quand même, ça va être... Et les photos, je prends pas de photos avec mon téléphone. J'ai encore un vieil appareil. C'est plutôt des photos de scénographie parce que je co-signe mes décors. Donc c'est souvent quand je vois des images qui m'inspirent. Mais donc, il n'y a pas de choses extrêmement intimes, si ce n'est pas mal de messages. Voilà, je dirais, des textos, et puis je suis connectée à mes mails. Voilà, je dirais que c'est plutôt un outil de travail.
D'accord.
Dont je suis quand même dépendante, hein, comme tout le monde. Mais en vacances, j'ai aucun problème à le laisser, à l'oublier vraiment toute la journée.
Alors, c'est pas du tout Romane Monnier et Julie Delicky, parce que Romane Monnier, elle est archiviste de sa vie. Son téléphone, en tout cas, est l'archiviste de sa vie. C'est fascinant ce qu'elle a pu enregistrer, photographier, les conversations enregistrées aussi, les messages vocaux, tout est resté. Ce qui permet à Thomas, le soir, quand il rentre chez lui après le boulot, de se délecter de cet inconnu.
Oui. Je dirais un peu comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'effectivement le téléphone contient toute la mémoire de tous ces échanges avec les autres, qu'ils soient professionnels ou personnels, mais ça il me semble que c'est notre cas à tous, d'ailleurs, et que ce mélange à la fois le plus anecdotique, le plus le sans intérêt, et des choses beaucoup plus précieuses, des mots beaucoup plus précieux, donc elle a ça, mais comme elle a aussi une espèce d'obsession pour la vérité qu'on découvre assez rapidement dans le roman, c'est comme si elle documentait en fait un certain nombre de choses qu'elle conserve, et là c'est une utilisation qui est sans doute un petit peu moins peut-être un peu moins courante, l'idée d'enregistrer ses conversations, etc. Je pense qu'il y a pas tout le monde ne fait pas ça, bien sûr.
Le point de départ, c'était l'envie de travailler sur la trace.
Sur les traces, oui, j'avais envisagé d'appeler le roman
Les traces. Ah oui.
Les traces, oui. Mais c'est un titre qui avait déjà été utilisé, c'était le premier roman de Delphine Coulin. Oui, je pense que ça a été mon point d'entrée vraiment dans cette histoire, plus que le téléphone lui-même. Enfin, en tout cas, le constat que les téléphones, nos téléphones portables, contiennent aujourd'hui les traces de nos vies. Toutes les traces, comme je le disais, à la fois les plus intimes et les moins intimes. Et que tout ça est mélangé et qu'au fond, quelqu'un qui trouverait notre téléphone ou qu'il s'en trouverait dépositaire si on vient à disparaître d'une manière ou d'une autre, pourrait avoir accès à une foultitude de données, de souvenirs, d'empreintes dont il ou elle ne saurait pas forcément quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait du téléphone de quelqu'un qui meurt, par exemple ?
Quand on est écrivain, on essaie de changer de forme à chaque livre, j'imagine. Et là, c'est vraiment l'enquête. Je parlais tout à l'heure de thriller, mais il y a un plaisir pour nous lecteurs à trouver une forme de suspense et de ne pas tout savoir tout de suite.
Oui, mais c'est, alors j'espère que j'évacue assez vite la question policière, parce que c'est pas ça dont il s'agit, mais j'avais envie que ce soit une forme d'exploration, de voyage dans le téléphone de Romane Monnier.
Mais c'est aussi une enquête sur sa personne et sa personnalité.
Exactement, et quelque part en contrepoint sur celle de Thomas qui est l'homme qui cherche, parce que face à cet océan numérique, il est obligé de trouver des modes opératoires, et la manière dont il cherche raconte autant de lui d'ailleurs que d'elle.
Il y a un effet miroir terrible. Plus il découvre, encore une fois chaque soir en regardant sa vie, en écoutant, plus lui aussi se livre. Et vous nous faites en fait deux portraits.
Oui, c'est-à-dire qu'assez vite, petit à petit, il se rend compte qu'il a un certain nombre de points communs, peut-être avec cette jeune femme dont il pensait au départ qu'ils se sont juste croisés par hasard. Et ce qui d'ailleurs peu à peu l'amène à se dire que ça n'est peut-être pas tout à fait un hasard qu'il se retrouve dépositaire de ce téléphone. Et comme elle est dans ce questionnement assez obsessionnel sur la vérité, ça va l'amener, lui, à reconsidérer un certain nombre de moments de sa vie sur lesquels il avait élaboré, à propos desquels il avait élaboré un récit, comme probablement nous le faisons tous à propos de nos vies, et peut-être de le revisiter, de le reconsidérer, tout comme d'ailleurs Romane Monnier amène au fond les siens, notamment ses parents, à redérouler le récit de leur histoire.
Julie Deliquet, vous mettez en scène, vous dirigez un théâtre, encore une fois, le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Vous vous investissez beaucoup là-bas. Je crois que vous allez dans les quartiers. Vous faites en sorte que les habitants de Saint-Denis viennent aussi, et pas simplement les Parisiens qui viennent une fois de temps en temps en banlieue. Et puis, j'imagine que votre vie, Julie Deliquet, c'est comme la nôtre. Quand on le peut, c'est de lire des bouquins, c'est d'aller au cinéma et peut-être d'être inspiré aussi d'autres arts pour pouvoir amener ce qui vous a touché sur scène.
Oui. Alors, en premier lieu, effectivement, en étant aussi directrice et du coup programmatrice, le travail des autres artistes, moi, m'inspire énormément. Donc, celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui et qui feront le théâtre de demain. C'est vrai que c'est une source aussi vraiment de questionnement. Et d'ailleurs, je peux vraiment être totalement saisie par quelque chose que je ne pourrais jamais faire ou qui est vraiment une autre forme que la mienne. Et on va dire que donc la lecture est fait évidemment partie intégrante de ma vie professionnelle et intime. mais le cinéma a une place toute particulière.
C'est votre formation au départ.
Voilà, c'est ça, et qui je pense, moi j'ai toujours fait du théâtre, petite fille, pour devenir un jour actrice, et c'est vrai que d'avoir eu cette section cinéma, qui était mon lycée de secteur, pardon, qui nous le proposait, a fait que ça a vraiment changé mon regard sur le monde. J'ai été confrontée à des œuvres qui n'étaient pas faites pour la jeune fille de 15 ans que j'étais, et qui ont, oui, m'ont changé à vie, et qui je pense m'ont mené à regarder beaucoup dans ma vie et sans doute choisi de continuer à être actrice autrement, c'est-à-dire en regardant les autres sur scène, et je m'intègre totalement dans ce jeu avec il ou elle au plateau, mais c'est une autre manière, voilà, de coexister auprès du groupe.
Vous faites aussi du doublage?
Oh, non, j'ai fait, oui.
Ah, c'est fini.
Ça m'a beaucoup amusé, hein, ceci dit, et j'ai trouvé ça très formateur, mais c'était
une autre façon d'être
autre
actrice.
Époque, oui. C'est vrai.
Vous avez lu le livre de Svetlana Alexievitch, je le dis bien, je crois, La guerre n'est pas un visage de femme, récit de femmes qui ont participé à la guerre de l'URSS contre l'Allemagne nazie, et vous en avez fait une pièce. Je vous propose d'écouter un extrait.
J'avais confié ma fille à ma belle-sœur, et quand je suis revenue, quand j'ai été démobilisée, et ben elle n'a pas voulu me rendre ma fille. Elle m'a dit comme ça que je ne pouvais pas avoir ma fille, parce que je l'avais abandonnée. Exactement ça, parce que j'avais abandonnée pour aller faire la guerre. Et comment une mère peut-elle abandonner sa fille, alors qu'elle est si petite et si fragile et sans défense? Et je culpabilisais bien assez de ne pas avoir vu ma fille grandir. Moi, je l'ai reconnue tout de suite, hein, quand je l'ai vue. Mais je l'ai retrouvée, elle avait 7 ans, je suis partie, elle en avait 3. Et c'est une fillette adulte que j'ai retrouvée. Elle voulait garder une trace de son frère. Elle aimait, c'était vraiment son frère, Cyril, le papa de ma petite Ella. Et il est mort dans les tout premiers mois de la guerre. Enfin, ça se comprend. Et puis, c'est de ces femmes pour qui la famille, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est pas le problème. Je veux dire, bombardement, pilonnage d'artillerie. Bon, bah là, nous toutes, bah, on s'est engagées. Elle, eh ben, elle s'est occupée des enfants. La seule question, c'était, il faut donner le bain à l'enfant aujourd'hui. Enfin, très bien. Merci beaucoup. C'est pas le problème.
Voilà, ça, c'est vraiment du théâtre et ça part de récits, hein, recueillis par au départ une journaliste russe, soviétique, qui est devenue, enfin russe, qui est devenue écrivaine. Mm-hmm. C'est beau de voir la vie s'incarner sur un plateau. Vous avez vu ce spectacle?
Oui.
Et c'est pour ça que Julie Deliquet est avec nous.
Oui. Entre autres, parce que j'en ai vu d'autres, j'ai vu plusieurs spectacles de Julie Deliquet. J'avais découvert votre travail avec Fanny et Alexandre à la Comédie française.
Oui.
Et ensuite, j'ai vu Un conte de Noël. Et ensuite, je suis venue effectivement avec mes enfants. J'adore aller au théâtre avec mes enfants. J'adore aller au théâtre en bande.
Ils sont grands.
Et ils sont grands, c'est des jeunes adultes. Ils aiment beaucoup le théâtre. Et souvent, on se prévoit comme ça des sorties. Et quand on est allé voir La guerre n'a pas un visage de femme, d'abord, je disais à Julie avant de commencer l'émission, j'ai été vraiment frappée par la jeunesse du public à Saint-Denis. Ça, c'est vraiment merveilleux.
Ça fait du bien.
C'est génial de voir autant de jeunes. Et de voir... C'est-à-dire que le spectacle commence, elles sont 9 comédiennes sur scène, assises face au public. On sait que ça va durer 2h30. Et là, il y a un petit moment où je vois quand même mes enfants qui disent 2h30, etc. Et après, on a été vraiment captés. C'est un choc, c'est absolument magnifique. Et c'est vraiment cette manière qui rejoint d'ailleurs ce que vous disiez aussi, de faire vivre le collectif à partir de ses destins individuels. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est comment ces actrices qui sont toutes démentes, existent peu à peu, ces personnages existent à la fois individuellement, avec leur histoire chacune, et comment ça, le discours rebondit de l'une à l'autre. Oui, il y a vraiment, il y a celle qui incarne aussi la journaliste, enfin la romancière
la
plus exactement.
La
dixième de ces femmes qui incarne la romancière, qui les interroge, et tout ça prend vie. On est en apnée pendant 2h30. C'est vraiment un des spectacles les plus frappants que j'ai vu ces dernières années.
Comment avez-vous trouvé du théâtre dans ce livre, qui est un livre de témoignages, Julie Deliquet?
Bah déjà, par la question de l'oralité, on a beaucoup parlé d'écoute, mais Svetlana Alexievitch, elle se définit comme une femme oreille. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail vraiment sur le long terme quand elle a retrouvé cette histoire qu'elle méconnaissait alors que c'était la sienne, c'est-à-dire vraiment l'engagement d'un million de femmes dans les différents corps de l'armée à partir de l'invasion des armées nazies en ex-URSS. Et elle s'est dit, je ne connais pas cette histoire, alors qu'elle est née en 48 et que c'est vraiment un produit c'est un enfant de la victoire, tel qu'on le disait à l'époque. Et du coup, elle est partie pour quelques semaines quand elle a passé une petite annonce pour dire, c'est des femmes veulent témoigner, je suis là. Et en fait, elle a fait 7 ans d'enquête. Donc, elle est vraiment passée d'un travail journalistique à un travail de femme littéraire et de grande littérature, puisqu'elle-même se met en scène dans le livre. Et il y a vraiment ces récits qui sont comme 300 monologues, mais qui sont vraiment issus de l'oralité, puisqu'elle enregistre avec un magnétophone. Et du coup, il s'agissait aussi, en empruntant cette matière-là, de retrouver, de façon évidemment fictionnelle, hein, cette oralité du départ, avant même que le geste de littérature s'exprime. Et du coup, confronter, et ça c'est de la fiction, puisque ces femmes, normalement, n'ont fait que des entretiens individuels, confronter au plateau ces femmes entre elles, et que finalement, ce soit l'entrechoc de leur récit qui crée le spectacle.
Donc elles
et...
se parlent, ces femmes,
exactement ça,
Delphine,
oui.
De Vigan.
Oui, oui, bien ouais. sûr.
Elles s'entrechoquent, oui, puisqu'en fait, leurs récits ne sont pas faits
pour
vraiment créer du dialogue, mais du coup, la création de dialogue est en direct, et pour que l'héroïne du spectacle soit la parole, on a décidé, je leur ai proposé, que chaque soir, l'ordre du texte s'improvise en direct face au spectateur. Ce qui crée cette espèce d'hyper-vivant vertigineux, tout à la fois digne, puisque c'est toujours un choix de parler, elles ne sont jamais dans la confession intime, c'est toujours un geste social et politique très fort et un acte de courage. Et du coup, il fallait aussi que pour les actrices, ça le soit, pour pas que le théâtre vienne à réparer quelque chose qui est quand même très fort, c'est que Svetlana Alexievitch, avec son œuvre, met fin à 30 années de mutisme collectif. Donc il fallait aussi que sortir du silence reste un acte théâtral fort, et du coup les actrices savent que si elles ne prennent pas la parole, la forme théâtrale ne la donne pas directement.
Mais ça vous plaît, Julie Deliquet, de faire entendre des paroles qu'on n'a pas encore beaucoup entendues ou pas du tout entendues? Il y avait eu une création importante de vous à Avignon qui était Welfare,
bien sûr.
D'après le documentaire, et donc les paroles recueillies par Frédéric Wiseman, ouais. C'était devenu du théâtre grâce à vous, parce que les plus pauvres d'Amérique, on ne les entend pas.
Oui, et là, pareil, hein, Frédéric Wiseman perche, donc c'est un homme oreille, hein, il n'est pas derrière la caméra, il écoute. Et c'est vrai que c'est des œuvres d'oralité, mais d'oralité dans ce qu'elles ont de plus vital, c'est-à-dire que d'un côté, on a dans Welfare des gens qui sont au bord de tomber de leur propre pays, et donc puisqu'ils n'ont presque, ils ont presque plus rien à perdre, ils osent nommer et dire les inégalités qui sont celles de nos sociétés modernes. Et de l'autre côté, ces femmes, presque, elles prennent la parole, mais du coup, elles font un acte d'auto-enfantement, puisqu'elles avaient eu une partie de leur vie qui était leur jeunesse, puisque quand elles ont pris les armes, elles avaient 15, 16, 17 ans. Et du coup, il y a quelque chose d'elles-mêmes qu'elles ont, parce qu'on leur a demandé de se taire, hein, très concrètement, qu'elles ont eu aussi à elles-mêmes. Et du coup, elles font un acte d'auto-création qui est assez puissant et qui crée évidemment aussi un acte théâtral fort, parce que ça surgit, donc c'est tragique, mais ça peut aussi être drôle, parce qu'en fait il y a comme quelque chose de l'ordre du jaillissement.
Vos enfants étaient aussi pris par ce qui se passait sur scène, par ce jaillissement, par ce collectif qui s'inventait presque chaque soir?
Oui, 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 tout à fait. Ben, on ressent ça, on ressent cette nécessité, la manière dont la parole circule de l'une à l'autre. Et pareil d'ailleurs dans Welfare, que nous sommes aussi allés voir avec mes enfants, avec le même plaisir.
Jamais sans mes enfants.
Non, mais j'aime beaucoup cette idée justement de partager le théâtre à plusieurs générations et de pouvoir échanger sur la manière dont ça nous fait ça nous percute, ou dont ça nous fait bouger, réfléchir, etc.
C'est intéressant parce que dans Je suis Romane Monnier, il y a plusieurs générations. Thomas n'a pas l'âge de Romane Monnier.
Non, oui, c'est vrai.
Romane Monnier parle de ses parents, parle avec ses parents sur son portable.
Oui, il est question aussi de transmission, c'est vrai, et d'une certaine manière d'oralité. Et ça m'a beaucoup intéressée d'ailleurs dans l'écriture du texte, de comment rendre compte de cette oralité qui est celle que Romane Monnier capte avec les enregistrements de son dictaphone, d'en faire un matériau littéraire. C'est une vraie question, parce qu'on ne peut pas être dans un mimétisme absolu, ça n'aurait pas de sens et ça ne serait pas de la littérature si on reproduisait vraiment de manière totale la langue orale avec ses hésitations, ses scories, etc. Donc, c'est d'ailleurs ça que j'aime dans le théâtre qu'on vient d'évoquer. C'est qu'à la fois l'oralité est présente et en même temps c'est un texte littéraire, sans aucun doute. Donc, alors évidemment, je ne me compare pas non plus à Svetlana Alexievitch, mais en tout cas, il y avait un travail qui consistait à tenter de fabriquer de la littérature avec un matériau qui est très oral. C'est la langue des messages vocaux, des vocaux qu'on enregistre sur WhatsApp. Oui, qu'on
vous avez réussi à reproduire ça, vous?
J'ai essayé celle du dictaphone qui n'est pas tout à fait la même, etc. Et puis de même qu'il y a la langue des SMS qui peut peut être une langue, voilà, qui est une sorte de langue un peu nouvelle, que je voulais distinguer de celle des emails et de celle du journal intime de Romane, qui est une langue, j'espère, plus littéraire.
C'est ça, rechercher des formes nouvelles d'écriture.
Oui, en l'occurrence, là, dans ce texte-là, ça m'a beaucoup occupée, ça nous a occupé aussi... pour la maquette du roman, de faire rentrer le téléphone dans un livre, de savoir jusqu'où on va pour que ce soit pas complètement gadget, mais que ça raconte malgré tout de manière assez immédiate et visuelle le téléphone.
Je sais que vous aimez la chanson et que, adolescente, vous écoutiez Jacques Higelin, peut-être toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ça m'arrive encore, bien sûr. Oui,
si je vous dis Tête en l'air, ça vous rappelle un moment de votre vie ?
Tête en l'air, je pense que c'est un album que j'ai écouté quand j'avais une vingtaine d'années, je dirais, oui. Pas forcément au moment de sa sortie, sans doute un petit peu après.
Il vous a peut-être appris à siffler alors, Jacques Higelin.
Oh ben non, je siffle très mal, j'ai jamais réussi.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Sur la terre, des damnés solitaires, étrangers aux vérités premières, énoncées par des coups, jamais touchés le fond de la misère.
On est bien sur France Inter avec Delphine de Vigan en direct. Delphine de Vigan qui publie « Je suis Romane Monnier » chez Gallimard. Et puis Julie Deliquet qui est une femme de théâtre que Delphine de Vigan apprécie et pas seulement. Vous travaillez d'une certaine manière avec vos comédiens, Julie Deliquet. Par exemple, un conte de Noël à la Comédie Française. Vous aviez un peu bousculé les habitudes des pensionnaires.
Alors, ce n'était pas un conte de Noël à la Comédie Française.
Oui.
C'était Fanny Alexandre.
C'était Fanny Alexandre, pardon, excusez-moi. Et il y avait parmi les comédiennes qui ont appris un peu l'improvisation avec vous, Julie Deliquet, il y avait Rebecca Marder, qui a quitté depuis le français, mais qui se souvient.
On a eu une chronologie du spectacle, je dirais, genre à 3 jours de la première, parce que, en fait, tout le long des répétitions, on improvisait, on avait bien sûr un cadre d'improvisation, le texte de Bergman devait toujours réapparaître, et c'est parce qu'on était très cadrés qu'on a été aussi très libres. Et j'ai connu cette liberté-là et reconnu la liberté que j'avais pu voir dans Vania, et donc de connaître la troupe un peu mieux et de voir la troupe à son meilleur, au meilleur d'elle-même. J'ai trouvé que c'était en ça un spectacle de troupe assez incroyable et que Julie avait eu le talent de, je n'aime pas trop ce mot, mais de fédérer aussi le groupe et tout ça et à faire transpirer chez chacun
sa part d'humanité, ouais.
Sa part d'humanité aussi d'acteurs au sein de la troupe, parce qu'elle s'est servie aussi de ce travail d'improvisation et de ce miroir qui était la famille Dahl et la troupe de la Comédie Française.
Racontez-nous cette improvisation. Qu'est-ce que vous demandez à vos comédiens une fois qu'ils ont le texte en main ? Peut-être d'ailleurs qu'ils n'ont pas de texte en main. Dites-nous tout, Julie Duluc. Et moi, je voudrais être une petite souris qui assiste à vos répétitions, parce que ça me semble très mystérieux, au fond.
Alors déjà, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait des adaptations. Donc effectivement, il y a un texte de départ avec, ça a été beaucoup d'éco-adaptatrices avec Julie André et Florence Evos, où on fait un travail sur les œuvres d'origine qui ne sont pas des œuvres de théâtre. Et du coup, on propose une première version adaptée, mais qu'on ne va pas jouer telle quelle, puisque les acteurs, leur travail, ça va être de la décomposer et de la recomposer vers une forme que je souhaite ignorer le plus longtemps possible. Donc quand Rebecca parle de derniers jours, le spectacle pousse vraiment dans les derniers jours. Ce qui n'est pas d'ailleurs un problème ou une difficulté, je ne le fais pas pour la forme ou pour créer un précipice du tout. C'est que la répétition pour moi est une expérience et ce n'est pas un endroit où on... Oui, finalement, l'objet final, on s'entraîne plus à s'entraîner qu'au match final. Le match final, on le joue quand on rencontre les spectateurs et les spectatrices qui rentre vraiment dans l'expérience. Et du coup, c'est comme une... C'est des situations improvisées où les acteurs ou les actrices doivent répondre avec le texte. Par exemple, sur « La guerre n'a pas un visage de femme », j'avais fait venir des classes de lycéens dans la salle, et je leur avais proposé une expérience, je leur avais dit, voilà, préparez avec vos professeurs de français, de théâtre, d'histoire, des questions que vous aimeriez poser si vous étiez face à des femmes combattantes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'avais eu la chance au lycée que Lucie Aubrac vienne faire une conférence dans mon lycée. Du coup, je m'étais un peu inspirée de cette sensation-là. Je leur avais dit, évidemment, en face, c'est des actrices, mais on part du principe que c'est des actrices comme si elles étaient sorties du passé. Et les actrices avaient... Un défi, c'est qu'elle devait répondre aux questions des jeunes gens uniquement avec le texte de Svetlana Alexievitch. Et ce jour-là, il y a eu comme un dialogue qui s'est fait entre 2025, qui était en plus, c'était la semaine du 8 mai et du 9 mai, donc des commémorations du 80e anniversaire. Donc de leur présent aussi, certains élèves avaient appelé leurs parents qui avaient fui d'autres guerres pour les questionner. Et ils s'étaient posé des questions d'ailleurs politiques, comme des questions d'intimité, de savoir comment certaines règles d'hygiène, savoir comment, qu'est-ce que c'est qu'une femme dans un monde d'hommes au combat quand rien n'attend en plus le corps féminin, puisqu'il n'y avait pas d'habits à leur taille et rien de prévu évidemment pour leurs règles, et ben ça a été des questions qu'ont posées les jeunes.
Vous avez vu cette façon de faire participer,
ouais, c'est
pas tout le monde, mais beaucoup de monde à un projet,
le film de Vigan. C'est très intéressant. Mais d'ailleurs, cette partie-là du spectacle sur le corps des femmes dans la guerre, elle est très très saisissante.
Oui, et ça permettait aussi de ne pas faire un spectacle sur le passé, mais de faire un dialogue vraiment, de chercher, et je cherche à mettre en expérience, et à la Comédie Française, c'était de dire, Rebecca Marder et Jean Chevalier, c'était les deux derniers pensionnaires qui jouaient Fanny Alexandre et qui regardaient les improvisations qui étaient virtuoses de Denis Podalydès qui jouait leur père. Mais en fait, il y avait comme une... J'avais mis en scène une forme d'expérience d'eux-mêmes, de la vraie troupe de la Comédie Française, pour qu'elle devienne la troupe des Hegdal. Mais donc, c'est à chaque fois, je cherche une expérience unique face à l'œuvre aussi, qu'on développe. Je n'ai pas une méthodologie préétablie, si ce n'est de faire dialoguer le réel et la fiction.
C'est pas forcément...
Et de fait, pardon, à chaque fois, c'est d'ailleurs aussi le cas pour Welfare, je trouve que ça donne un sentiment d'actualité qui est très fort. On a l'impression qu'on parle du présent. Et pourtant, Welfare, c'est les années 70, c'est les États-Unis. Et quand on voit ce spectacle, on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on nous parle de la pauvreté d'aujourd'hui. C'est très saisissant.
Exactement. Et sur Welfare, ça a été vraiment tout la question des centres sociaux aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, mais on ne parle pas directement de ça sur scène. En revanche, on l'a vraiment, nous, éprouvé, travaillé, traversé, invité cette question-là lors de nos répétitions.
Delphine de Vigan, est-ce que le théâtre vous sert à dialoguer dans vos livres? Est-ce que c'est un plus qui vous permet de parce que vous savez dialoguer.
D'aller au théâtre, vous voulez dire?
Oui, de voir beaucoup de pièces. On vous voit beaucoup dans les salles.
Oui, j'aime bien. Peut-être, effectivement. Mais j'ai toujours accordé une grande importance à l'oralité dans mes romans depuis longtemps. Sans doute que ça me sert à me nourrir. Et moi, j'aime bien cette idée que de toute façon, on se nourrit inconsciemment de toutes les choses qu'on qu'on voit. On parlait d'observer des gens, de les écouter. Mais pour moi, c'est aussi le cinéma, bien sûr. C'est lire les autres, c'est aller au théâtre, c'est avoir le sentiment comme ça de capter tout et ensuite de le métaboliser. Je ne sais pas très bien comment. Enfin, voilà. Mais probablement que tout ce qui est toutes ces sorties au théâtre me nourrissent. Oui, bien
sûr. Et puis vous avez eu envie, vous aussi, de vous en mêler, si je puis dire, du théâtre en écrivant une pièce qui s'intitule Les Figurants, qui sera mise en scène par Valérie Donzelli. Bientôt, je ne sais pas quand...
À Avignon, à la Scala d'Avignon.
À la Scala, cet été, à Avignon, dans le Hof, donc. Pourquoi, d'un seul coup, le théâtre est venu sous votre plume ?
Je ne sais pas si c'est d'un seul coup. Je tournais autour depuis un petit moment. C'est au moment d'écrire Les Gratitudes, un roman qui n'est composé que de dialogues, de monologues. J'avais déjà envie d'aller vers le théâtre, mais je n'ai pas osé le faire. Je me suis dit, je suis romancière, je ne veux pas savoir faire. Donc, finalement, c'est une forme un peu hybride. Et j'aime bien d'ailleurs cette idée des formes hybrides. Et puis, il se trouve que ce roman, Les Gratitudes, il a été adapté au théâtre. Il y a eu très, très vite un fort désir de théâtre de la part de plusieurs metteurs en scène. Finalement, j'ai choisi Fabien Gorgeard, donc qui l'a adapté au 104. Et puis, il a été adapté aussi à l'étranger, etc. Donc, ça m'a peut-être un peu confortée dans l'idée que je pouvais essayer de fabriquer quelque chose qui serait une sorte de théâtre, mais je ne peux pas me le dire comme ça. En fait, de même que quand on me présente maintenant, parfois dans les librairies, en disant dramaturge, je dis non, oh là là, non, non, surtout pas. Mais voilà, en tout cas, de m'approcher, c'est plutôt ça, cette idée de m'approcher d'une forme qui ressemblerait au théâtre.
Sur les figurants de cinéma, mais surtout sur, là encore une fois, on en parlait tout à l'heure, des gens qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas, les invisibles.
Voilà, j'avais vraiment envie de mettre un plateau de cinéma sur un plateau de théâtre et pas ce premier plan qu'on a l'habitude de voir au cinéma, mais cet arrière-plan auquel on ne prête même pas attention.
Donc c'est vrai que le cinéma et le théâtre aiment votre oralité dans votre littérature, Delphine de Vigan, parce que par exemple, Zabou Breitman avait réalisé Noé et moi, et puis vous citiez Fabien Gorgeard en 2023 avec Catherine Yégel, entre autres. Elle est Mishka dans cette pièce, elle est terriblement émouvante. Elle commence à perdre l'usage de la parole et on a un extrait ici avec son orthophoniste joué par Pascal Sangla.
Bon, on le fait ce petit exercice.
D'accord.
Alors aujourd'hui, je vous donne plusieurs mots et vous me donnez le mot générique qui les relie. Par exemple, bouddhisme, protestantisme, catholicisme, le mot qui les rassemble est...
Et votre père ?
Je vois plus.
Ah bon, pourquoi?
Ce serait long à expliquer.
Ah oui, mais moi j'ai mon temps.
Oui, mais on a du travail.
Votre père est vivant?
Oui.
Il est vieux?
Oui, sans doute.
Vous l'avez pas vu depuis qu'il est vieux?
Non.
Eh ben voilà.
Voilà quoi?
Mais c'est pour ça que vous aimez les vieux.
J'avais jamais pensé, mais peut-être.
Ah oui, mais bon, faudrait lui dire.
Lui dire quoi?
Mais tout ça. Tout ce qu'on regrette après. Quand les gens disparaissent, comme ça, vous voyez, ça arrive, vous savez. On ne peut pas rester avec tout ça sur le cœur. Après, ça fait des cauchemars, vous voyez.
Oui, mais je sais, bon, on verra.
C'est bon d'entendre son texte et de voir son texte s'incarner sur scène.
C'était une belle expérience avec effectivement des comédiens formidables. Catherine Yégel qui a porté ce personnage de Mishka pendant assez longtemps.
Il y a deux choses qui me frappent, moi, Delphine de Vigan, en écoutant cet extrait. C'est qu'il y a un thème qui vous est cher et qui revient aussi dans Je suis Romane Monnier. Il y a même deux thèmes, c'est la perte et l'absence. Thomas, par exemple, vit sans son père, quelque chose de très important dans sa vie et dans sa façon de vivre, de ressentir le monde. Et puis, il vit aussi sans la femme qu'il a aimée et qui lui a laissé une fille qu'il découvrira plus tard. Mais l'absence, la perte, c'est là.
En effet, je peux pas en dire tellement plus. Je me rends compte qu'il y a des motifs récurrents dans mon travail, mais j'imagine que c'est le cas de tous les auteurs, de tous les artistes. Certains dont on est conscient, et d'ailleurs que d'une certaine manière on fait ressurgir volontairement, avec peut-être l'idée qu'on va mieux les apprivoiser ou qu'on va savoir faire quelque chose d'autre à partir de ces serpents de mer qui réapparaissent. Et puis d'autres qui traverse mon travail de manière peut-être moins consciente, mais je peux pas être moi-même l'analyste ou l'exégète de mon propre travail. Oui, je ne peux que constater que en effet
ces choses reviennent.
Des choses qui reviennent. Ouais.
On va écouter Gorillaz qui chante Orange County.
« Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
En direct sur France Inter avec Delphine De Vigan et Julie Deliquet, les conseils de ces dames. Peut-être un documentaire sur Arte.
Ah oui, moi, un documentaire que j'ai vu qui s'appelle Mr. Nobody Against Putin, qui est sur, qui est disponible sur la plateforme d'Arte, mais qui passe aussi au cinéma, qu'on peut encore voir au cinéma. Documentaire qui raconte c'est un jeune pédagogue, on ne sait pas très bien d'ailleurs quel est son métier, qui est dans une école de l'Oural et qui se trouve au moment où, où Poutine envahit l'Ukraine, chargé d'organiser et de documenter tous les événements festifs de l'école, dont le but est clairement de renforcer le patriotisme des élèves. Donc en fait c'est toute la propagande, si vous voulez, de Poutine à ce moment-là, qui passe à travers l'éducation, qui est documenté par cet homme un peu à son corps défendant. Et à un moment donné, il envisage de démissionner. Il se dit, c'est pas possible, je peux pas me rendre complice de ça, de cette militarisation de l'école. Et finalement, il décide de rester, se rendant compte qu'il occupe une position très privilégiée pour filmer ce qui se passe et la manière dont ses élèves, cette espèce de lavage de cerveau qu'on inflige aux élèves. Il y a un moment même où la milice Wagner vient leur montrer comment manipuler des armes, etc.
C'est plus les films de propagande.
Exactement, les films de propagande, la revisitation totale de l'histoire, etc. Et donc, il a filmé ça pendant plusieurs mois, étant vraiment au cœur du système. Il a même dû quitter la Russie, à dire vrai. Donc maintenant, il accompagne le film. C'est très intéressant et tout à fait passionnant.
Donc, on peut le voir entre autres au cinéma, mais aussi sur arte.tv. Oui. Redites-nous le titre, s'il vous plaît.
Mr. Nobody Against Poutine.
Julie Deliquet, vous, c'est une pièce de théâtre qui vient de commencer au Bouffe du Nord à Paris que vous nous conseillez, Chien de Lorraine de Sagazan.
Oui, j'ai vu ça il y a 2 jours. J'avoue que j'ai été très saisie.
Ça se présente comme une installation plastique et musicale.
Ah ben oui, voilà, exactement.
Racontez-nous.
C'est un objet très singulier, donc chanté, mis en musique et interprété, qui part d'une affaire judiciaire qui est encore en cours, qui est le procès dit du porno, c'est-à-dire sur toute l'industrie pornographique qui porte atteinte à la dignité humaine et qui fait usage de barbarie à travers le viol. C'est un spectacle très difficile, je préfère le prévenir, interdit aux moins de 16 ans, mais qui crée un choc aussi bien de forme que de fond, dans lequel les spectatrices et spectateurs sont vraiment un sujet, du sujet évoqué, ce qui du coup n'est pas facile à traverser, mais on est vraiment invité à pouvoir sortir si c'est trop difficile. Et en même temps, Lorraine de Sagazan a ce génie de faire aussi une œuvre plastique et musical unique. Et du coup, on est vraiment sur un sujet extrêmement social sur la question de la justice contemporaine, avec une œuvre de création extrêmement singulière et picturale et lyrique qui se fabrique sous nos yeux.
Vous aviez travaillé à Saint-Denis avec...
C'était mon artiste associé, Lorraine de Sagazan.
Vous avez fait un spectacle ensemble ?
Oui, on a fait un spectacle avec 30 femmes de Saint-Denis, 10 petites filles, 10 adolescentes et 10 femmes.
Vous aimez, encore une fois, faire venir non seulement un public autre, un public différent et un public qui est chez vous à Saint-Denis, au théâtre, mais aussi faire participer sur scène parfois les habitants qui vivent là-bas.
Un centre dramatique national, c'est sa mission première. D'abord, on est à Saint-Denis, c'est le théâtre de Saint-Denis.
Mais je sens que c'est très important chez vous.
Oui, c'est très important parce qu'on incarne la démocratisation culturelle et dans toute sa diversité, dans tout son pouvoir démocratique, la culture n'est pas un luxe.
Et c'est possible de réaliser cette démocratisation.
Oui. Après, elle est au travail chaque jour. On n'a pas la bonne recette qu'on appliquerait toutes et tous. On est vraiment en expérience de ça. Et du coup, le travail avec les habitants et les habitantes font partie de nos projets phares et de pouvoir faire des grands projets participatifs tels que nous l'avons fait avec Lorraine de Sagazan. Et il y en a un par saison. Est vraiment constitutif de l'ADN de la maison qui est le Théâtre Gérard-Philippe.
C'est une sorte d'idéal pour vous, ça, de vivre ça collectivement.
En tout cas, ça donne du sens de pouvoir questionner, voilà, quelle est la place de la culture en tant que service public d'art et de la culture au même titre que la justice, l'hôpital, l'école, et de pouvoir interroger quelle est sa place et quelle est sa complexité de sa place. Puisque, comme je vous l'ai dit, moi, à 15 ans, j'ai été face au cinéma méditerranéen qui ne s'adressait pas directement à moi et qui, pourtant, m'a éveillée au monde. Donc, qu'est-ce que la place de l'art ? C'est des fois être confronté à des œuvres qui ne nous sont pas directement adressées. Mais du coup, comment accompagner ? Comment passer la porte d'un théâtre ? C'est pas si simple. Non. Moi, j'ai fait du théâtre jeune, mais j'y suis allée assez tard. Donc, tout ça, c'est travailler avec les professeurs, travailler avec les associations, les maisons de quartier, travailler avec les soignants, les soignés. Voilà, c'est faire du théâtre aussi en dehors de nos murs.
Est-ce que vous dormez un peu, Julie Bléquet ?
Je suis une très grosse dormeuse. C'est ma force.
Vous savez ce que disent vos camarades ? Ils disent « Julie pense tout à plusieurs ». Encore une fois, l'idée du collectif. Oui, et oui. Que le metteur en scène ou la metteuse en scène n'est pas une sorte de démiurge absolue.
Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette force de production, c'est qu'on est plusieurs. On est plusieurs, on est une équipe permanente, il y a des équipes artistiques, il y a des artistes associés, il y a des artistes au quotidien dans la maison, il y a des enfants au quotidien dans la maison. Voilà, c'est vraiment une histoire de compagnonnage, de collectif et aussi d'audace individuelle relayée par les uns et les autres au quotidien.
Je regarde Delphine de Vigan qui a un sourire, non pas admiratif, mais ça vous donne envie toute cette idée de travailler ensemble, vous qui êtes seule face à la page blanche.
C'est vrai que quand on écrit, on est beaucoup plus seul, en effet. Mais après, il y a ce moment où on accompagne le livre, où on rencontre de nouveau les lecteurs.
Ça fait du bien.
Oui, j'aime bien ça, et sortir de cette solitude de l'écriture. En fait, j'aime assez ce mouvement de balancier, d'alternance. En général, quand je reviens en écriture, je suis assez contente de retrouver cette solitude, parce que je pense qu'elle fait vraiment partie aussi de moi. Et puis, le moment où il faut accompagner le livre, je suis assez contente de sortir de chez moi. Et puis, par la collaboration, j'ai des collaborations, notamment au scénario, là, récemment...
Avec François Bunel.
Voilà, récemment, au scénario de François Bunel, qui a terminé de tourner, qui est en montage de ce film. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ce type de collaboration, donc de travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a un plaisir particulier. J'ai longtemps travaillé en entreprise et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime bien de temps en temps refabriquer quelque chose à plusieurs, parce que dans la solitude de l'écriture, on perd un peu ça.
Vous citez François Bunel, que vous connaissez bien, très bien même.
Oui. Hein,
et on va l'écouter parce qu'il a parlé de vous une fois dans une émission qui s'appelle « Thé ou café ».
Une de ses forces, peut-être ne le sait-elle pas, c'est la capacité qu'elle peut avoir d'un regard, d'une oreille, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui écoute énormément, d'une parole, à être très impressionnante. Dans la sérénité, mais aussi dans la fantaisie, dans la folie. Il lui dit jamais si on allait au bout du monde, parce que elle vous dira oui, on y va le lendemain. Donc, mais c'est ça que j'aime.
On va au bout du monde, Delphine de Vigan?
Bon, c'est la parole d'un homme amoureux, on va dire.
Vous êtes un petit peu folle.
Un peu folle, ça c'est sûr.
Ça, c'est formidable.
Je le cache plutôt pas mal.
Gardez votre folie. En tout cas, bravo pour Je suis Romane Monnier. J'avais Merci. Envie que vous écriviez une suite, mais vous m'avez dit certainement pas. Moi, je change à chaque fois de sujet et de forme.
Vrai, j'ai jamais écrit de suite.
Mais les gens vous la demandent quelquefois.
Ça arrive. Hein,
ça arrive. Je suis Romane Monnier, apparu chez Gallimard et Julie Deliquet. Vous voyez ces spectacles au théâtre Gérard Philippe, entre autres, à Saint-Denis. David Le Prince a réalisé cette émission en direct préparée avec Marion Guilbeault et Anaïs Boucher. Programmation musicale Valentine Chez Debois, à la technique Loïs Moreau.